Bonjour, nous sommes les élèves de seconde générale au lycée La Salésienne. Dans le cadre de la matière ST2S, sciences technologiques de la santé et du social, nous menons un projet sur l'addiction. Et aujourd'hui, dans cette table ronde, nous allons parler plus particulièrement de l'addiction au tabac. Nous recevons donc aujourd'hui, au sein de notre lycée, Gilles Pereira, chargé de mission du dispositif d'aide à l'arrêt du tabac, les lundis de Loiread.
Bonjour Monsieur Pereira, qu'est-ce que Loiread ?
Alors Loiread est une association qui représente un réseau. Ce réseau travaille autour des conduites addictives, les addictions en général, toutes les addictions avec produits et sans produits. Et comme c'est un réseau, nous travaillons avec un certain nombre de partenaires qui font partie de Loiread, qui composent le conseil d'administration, mais qui sont, elles, les personnes en première ligne dans la prise en charge des addictions. Nous, on est la partie cachée, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un rôle de coordination, de formation, d'information, et on travaille en partenariat donc avec tous les différents acteurs de l'addictologie sur le département. Vous allez en rencontrer certains, Addiction France, j'ai entendu parler d'Addiction France, mais le Centre Rimbaud, mais il y a aussi le XAPA 42 qui travaille plutôt l'alcoolologie, la prise en charge de l'alcool, mais pas que, les services de tabacologie de l'hôpital, les lundis de Loiread, qui est un des programmes, par contre, qui est animé par Loiread. C'est un réseau autour de la problématique, des problématiques addictives.
Quel est votre rôle au sein de Loiread ?
Alors, au sein de Loiread, nous sommes trois. Je suis chargé de projet donc au sein de Loiread, c'est-à-dire que je dois mettre en place des accompagnements de projets, bâtir des programmes comme celui dont on va parler juste après, les lundis de Loiread. Il y a aussi ma collègue Caroline Guiguet qui est coordinatrice et chef de service de Loiread et qui fait à peu près le même travail que moi en plus de la coordination de l'association. Et Lucie Gounon, qui est secrétaire administrative. Donc nous sommes trois, c'est vraiment la cheville ouvrière, on est peu nombreux. Mais le réseau, bien sûr, est bien plus grand, parce que vous l'aurez compris, ce sont tous les autres acteurs de l'addictologie du département, qu'ils soient hospitaliers ou associatifs. Alors, Loiread est un réseau de professionnels pour les professionnels. Vous l'aurez compris, on n'accueille pas de patients. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la prise en charge directe. Ce n'est pas nous qui accompagnons, ce n'est pas nous qui soignons. Mais nous sommes plutôt en lien, comme je disais, nous travaillons plutôt avec les professionnels de l'addictologie, qui, eux, accueillent toutes sortes de publics. Ça peut être des personnes qui souhaitent arrêter de fumer dans les centres de consultation en tabacologie. Ça peut être des personnes qui sont en difficulté avec l'alcool, qui vont être reçues dans des centres de soins et d'accompagnement de prise en charge des addictions. Aujourd'hui, on parle de XAPA, parce que généralement, pendant très longtemps, on travaille par catégorie, l'alcool, le tabac, ce qu'on appelait la toxicomanie, et chacun avait sa spécialité. Mais comme aujourd'hui on a affaire à des publics qui sont souvent polyconsommateurs, c'est un petit peu dommage de s'occuper du problème d'alcool d'une personne parce qu'elle est en difficulté et oublier complètement qu'elle est aussi dépendante du tabac, parce qu'elle peut s'en sortir de sa problématique alcool et puis finir par tomber malade de sa problématique de son tabagisme. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir une prise en charge qui est plus globale, d'où l'intérêt que les professionnels se travaillent ensemble, se connaissent, parce qu'au départ, ils avaient chacun leur spécialité, mais petit à petit, tout ça s'ouvre et les prises en charge sont plus globales, on est moins centré sur le produit. Voilà. De fait, si on a des addictions qui sont sans produit, le jeu, le sexe, le travail, le sport. Et donc, on se retrouve finalement avec des problématiques importantes, des personnes en grande souffrance et qui ont besoin d'être aidées et qui ne sont pas forcément des personnes qui consomment tel ou tel produit.
Vous avez en charge les lundis de Loiread en lien avec l'arrêt du tabac. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?
Alors, les lundis de Loiread, c'est un dispositif qui, comme son nom l'indique, est ouvert tous les lundis soirs de 18h à 20h, en dehors des vacances scolaires, où nous accueillons et accompagnons des personnes qui souhaitent arrêter le tabac. On peut retrouver aussi des personnes qui sont dans une double consommation, mais souvent ça va ensemble, qui consomment aussi du cannabis, mais de fait du tabac, et qui peuvent aussi rejoindre ce groupe-là. L'idée, c'est vraiment de leur donner des informations pour qu'elles puissent le plus sereinement possible aller vers cet arrêt du tabac.
Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être dépendant au tabac ?
Alors, le tabac est composé, la fumée du tabac est composée de milliers de substances. Parmi elles, une substance qui est bien connue, qui s'appelle la nicotine. Et la nicotine est la grande responsable de la dépendance, combinée, bien sûr, à d'autres produits. Les stratagèmes mis en place par les fabricants de tabac pour rendre les gens accros sans limite, donc ils ont réussi à combiner la nicotine avec d'autres produits, mais pour faire simple, c'est la nicotine qui rend dépendant au tabac. Nicotine qui n'est pas le produit le plus dangereux contenu dans la fumée de la cigarette, puisque pour arrêter de fumer, justement, on a souvent tendance à vous prescrire de la nicotine sous forme de patch ou sous forme de gomme, par exemple, ou de pastille. Donc si c'était très dangereux, on ne vous en prescrirait pas. Mais on peut arrêter sa dépendance à la nicotine en prenant de la nicotine. Donc ce n'est vraiment pas la substance la plus dangereuse. Par contre, c'est celle qui va faire l'accrochage. C'est celle qui fait qu'on ne va plus pouvoir s'en passer très rapidement. Et c'est ce qui fait qu'on va devoir aussi gérer toutes les autres centaines, milliers de substances qui, elles, sont bien plus toxiques.
Qui sont les personnes qui peuvent y participer ? Est-ce que c'est payant ?
Non, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Le dispositif est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et simplement, nous accueillons des personnes majeures. Et voilà. Donc, elles n'ont rien à payer. C'est complètement ouvert puisque c'est financé sur des fonds publics.
Dans quel état d'esprit faut-il venir ? Quel est l'engagement que vous demandez aux participants ?
Alors, l'état d'esprit, il va être variable en fonction des individus qui se présentent. Certains sont très, très, très motivés. D'autres sont un peu plus dans le « il faut que j'arrête ». Mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Dès que « il faut », eh bien souvent, il va falloir passer de « il faut » à « j'ai envie ». Donc ça fait partie du cheminement et de notre travail. Donc l'état d'esprit, ouais, il est variable. On a des personnes vraiment très motivées à l'arrêt. D'autres qui sont plutôt dans des problématiques un peu santé et à qui on a dit « ça serait... il faudrait arrêter parce que le traitement ne va pas marcher », etc. Donc, on accueille toutes sortes d'états d'esprit. Des gens qui sont en panique, comment je vais gérer mon stress, comment je vais gérer mes émotions. D'autres qui se disent, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai l'intention d'avoir des enfants, d'être enceinte, etc. Donc, vraiment, on a toutes sortes de personnes. Généralement, plutôt des personnes quand même relativement anxieuses, un peu désemparées, qui ont parfois, essayé l'arrêt du tabac et qui n'y sont pas arrivées. Donc, souvent, elles pensent qu'elles n'ont aucune volonté. Donc, notre idée, c'est aussi de leur expliquer que ce n'est pas une question de volonté, mais plutôt une question de motivation, et de les faire déculpabiliser. Leur expliquer que le tabac est une addiction sévère, peut-être une des plus sévères, que c'est pas un produit anodin, même s'il est en vente libre, et de leur faire comprendre à quel point c'est une addiction, une réelle addiction, et à partir de là, ça permet aussi de déculpabiliser, ça permet aussi de comprendre qu'on a parfois souvent besoin d'une aide extérieure, que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est un peu la finalité.
Comment s'organisent les séances ? Vous faites intervenir des personnes extérieures, diététiciens, sophrologues, tabacologues, et pourquoi ?
Alors, tabacologue, ça va sans dire que c'est le cœur du sujet. Donc, les tabacologues sont formés à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elles ont une certaine technicité. Quel substitut ? Est-ce qu'on met des patchs ? Est-ce qu'on met pas de patchs ? Quel dosage en nicotine si on utilise la substitution ? Elles sont formées aussi à écouter. Elles connaissent ces patients. Elles ont tout un diplôme universitaire en tabacologie, un DU de tabacologie, et elles ont de la clinique, c'est-à-dire qu'elles ont accueilli des centaines de, voire davantage, des milliers de patients et patientes dans les centres dans les unités de tabacologie. Donc elles sont formées à cette prise en charge, et voilà, c'est leur spécialité. En complément des interventions des tabacologues, on a donc des séances de sophrologie. Notre sophrologue, l'idée c'est que, voilà, je le disais juste avant, mais c'est que les personnes qui viennent, souvent on gère avec leur tabagisme, avec le fait de fumer, elles ont souvent l'impression de gérer beaucoup d'émotions. Je suis stressé, très stressé, je fume une cigarette et je me sens mieux. J'ai un coup de colère, je quitte l'appartement, je fume une cigarette et ça va mieux. J'ai eu une grosse journée de travail, une grosse journée de... voilà, la moindre contrariété. Mais ça peut être aussi les émotions positives. Je suis bien avec les personnes qui m'entourent, je fume une cigarette, je suis dans une espèce de communion, on est là, on fume tous. Et donc ça peut être aussi bien des émotions négatives, positives, mais il y a un lien très fort. À l'arrêt de la cigarette, les personnes souvent ont peur de dire comment je vais gérer tout ça, comment je vais gérer mon stress, comment je vais gérer tout ce qui est de l'ordre de ces émotions-là. Et l'idée, c'est par la sophrologie de leur amener des moyens, des outils simples, parce que c'est quand même une séance à peu près tous les 15 jours en alternance avec les séances de tabacologie. Mais à travers ces séances, elles vont apprendre des techniques de sophronisation autour de la respiration, autour de, donc il y a des visualisations corporelles, mais il y a aussi des visualisations, ça se rapproche un peu, on intègre un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation de pleine conscience. Voilà, on travaille assis, debout, c'est pas de la relaxation allongée sous un plaid, non, c'est vraiment dans les positions ordinaires de la vie de tous les jours, debout, assis, et avec un travail comme ça autour du lâcher prise. Voilà. Donc leur donner la capacité de traverser cette période qui va être déstabilisante de l'arrêt du tabac, en leur donnant des outils pour être plus zen, hein, pour on va le dire simplement. Et puis finalement, le tabac qui va être utilisé comme quelque chose d'anti-stress, finalement, souvent les fumeurs sont plus stressés que la population générale. Hein. Généralement, on a affaire à des personnes qui sont plus stressées parce que c'est un stimulant. Donc on utilise un produit qui va amener, qui pourrait amener une certaine forme de relaxation, en tout cas nous apaiser dans des moments comme ça un peu de stress. On va gérer plein de choses avec, mais en réalité, le produit lui-même est un stressant. Hein. Il va amener du stress. Donc souvent, à l'arrêt du tabac, les gens finalement sont surpris de retrouver un certain calme, une certaine quiétude. Et puis si on rajoute de la sophro là-dessus, bah, elles se sentent encore mieux. Donc voilà. Voilà pourquoi la sophrologie. Et puis bien sûr, il y a de la nutrition. La nutrition, beaucoup de personnes ont entendu ou ont expérimenté elles-mêmes un arrêt du tabac qui s'est soldé avec une prise de poids plus ou moins importante. Des fois, il y a vraiment une espèce de perte de contrôle. Le cerveau ne fait plus la différence entre j'ai faim ou j'ai envie de fumer. Eh bien, on a des personnes comme ça qui se livrent du grignotage. Alors la prise de poids, elle est normale à l'arrêt du tabac, elle n'est pas systématique, mais on peut dire 1 ou 2 kilos pour les hommes, 2 à 3 kilos pour les femmes, parce que le fait de fumer, on brûle un peu de calories, et donc à l'arrêt, y a un déséquilibre, mais ça c'est juste au début, ensuite tout rentre dans l'ordre. Mais si à ce petit déséquilibre on rajoute un appétit grandissant et surtout beaucoup de grignotage, à chaque fois que j'ai envie de fumer, je prends un carré de chocolat, voilà. Et ça c'est lorsqu'on en manque. L'idée, c'est vraiment de ne pas être dans le manque. Et on a de la chance pour ça. On a des outils qui sont les substituts, notamment nicotiniques, mais pas que. Je veux dire, toute l'approche, l'écoute, c'est un groupe de parole quand même. Quelque part, les gens sont là autour de la table, ils ont des angoisses, ils ont des inquiétudes, ils ont des questionnements, ils ont des représentations. Et on va travailler avec eux, discuter, échanger, mieux comprendre pourquoi c'est une addiction, mieux comprendre en quoi c'est une addiction. Comprendre qu'il y a des solutions, qu'on peut être aidé et qu'on peut le faire sans être dans la douleur. On peut le faire le plus confortablement possible et une fois qu'on est rassuré, eh bien, les choses se passent mieux.
Sur quelle durée les personnes qui viennent au lundi de Loiréade doivent-elles s'engager ?
Il y a pas de durée préétablie. C'est pas un programme avec séance numéro 1, séance numéro 2, séance numéro 3, où à chaque séance on aborderait des thèmes comme ça différents. On va vraiment s'adapter au groupe présent. Il y a des anciens, il y a des gens qui viennent de rejoindre le groupe. Ce soir, par exemple, j'ai une séance de sophrologie. Il y aura peut-être une personne qu'on ne connaît pas, qui n'était pas là les semaines auparavant. Eh bien, elle va prendre le train en route. Ce qui est intéressant, c'est en effet de les voir cheminer, notamment sur les séances plus de discussion de tabacologie, parce que des personnes, finalement, vont se voir à la place de... Il y a 6 semaines, quand j'étais venu, on dirait mon discours. J'étais là, je comptais mes cigarettes, j'en fume que 4 par jour. Voilà, il y a des personnes qui veulent absolument pas arrêter du jour au lendemain. Et pourquoi pas, hein, c'est leur choix. On accepte, et c'est la meilleure chose à faire. Mais ouais, c'est un cheminement individuel qui est partagé dans un groupe, mais on peut venir qu'une fois. Mais il y a des personnes qui sont venues qu'une fois, que j'ai pu croiser par hasard un jour en faisant mes courses, et je ne les ai pas reconnues parce que je vois beaucoup de monde, mais qui me sont venus me dire ben, on a arrêté tous les deux, c'était un jeune couple, on était venus prendre des renseignements parce qu'on avait le projet d'avoir des enfants, un enfant, et puis finalement on s'est dit dans 6 mois, et puis finalement en sortant de la séance on se dit quelques jours après ben, pourquoi attendre 6 mois. Voilà. Et elles sont venues qu'une fois et elles ont arrêté parce qu'elles étaient très motivées, et entre-temps l'enfant est arrivé. Voilà. Donc il n'y a pas une porte d'entrée avec une porte de sortie, séance numéro 1 puis dernière séance. Des personnes des fois sont restées vraiment de nombreux mois. Certains viennent qu'à la tabacologie, d'autres viennent à la tabaco, à la sophrologie. D'autres ne viennent qu'aux séances de sophrologie parce qu'elles sont déjà suivies en tabacologie, par exemple à l'hôpital. Et c'est leur tabacologue de membre du CHU qui les oriente, et elles viennent pour les séances de sophrologie. De temps en temps, les tabacologues les orientent aussi, ils leur proposent de participer à des groupes sur la tabacologie, bien qu'elles soient suivies. Pourquoi ? Parce que la tabacologue peut être un peu en difficulté, les choses avancent plus trop, et elle se dit, bah tiens, peut-être que de participer à un groupe, ça va faire levier, et que ça va débloquer une situation. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc, voilà, on peut picorer, on peut venir en continu. Il n'y a pas de séance déterminée à l'avance, de nombre de séances déterminées à l'avance.
Quel est le taux de réussite d'arrêt du tabac ? Des personnes abandonnent-elles en cours ?
Alors, c'est toujours une question délicate. Sur le programme, on n'a pas ce type d'évaluation, mais qui n'existe pas d'ailleurs généralement en addictologie. Souvent, les gens, à un moment donné, ne viennent plus. Donc on en déduit que ça va mieux pour elles. Certaines nous disent, bah voilà, je ne viendrai plus. Et puis, l'arrêt du tabac, ce n'est pas juste le moment où vous avez arrêté. Donc souvent, à un moment donné dans le suivi, on sait très bien que les personnes ont arrêté de fumer. Elles nous le disent. Comment ça va ? Comment ça s'est passé depuis 15 jours, etc. On a un appareil qui s'appelle le CO-tester, avec lequel on mesure aussi le taux de monoxyde de carbone. Et ça permet aussi, alors c'est pas un contrôle, mais ça permet aussi de savoir à quel type de fumeur on a affaire. Et ça permet aussi au fumeur lui-même, à la fumeuse lui-même, de savoir, je suis quelqu'un qui tire fort sur mes cigarettes parce que j'en fume que 10, mais j'ai le même taux que la personne à côté de moi qui n'en fume que 5. Vous voyez, j'ai le même taux avec 10 cigarettes que celui qui est à ma droite et qui lui en fume le double. Et donc, c'est ce qui va permettre aussi d'adapter les traitements. Lorsqu'il y a des substituts nicotiniques qui sont mis en place, eh bien, il faut que ça couvre les besoins en nicotine. Et juste de déclarer un nombre de cigarettes, ça ne suffit pas. D'avoir une approche plus précise, notamment par la mesure de ce gaz, ce monoxyde de carbone qui va expirer dans l'appareil, ça permet d'affiner. Alors, on n'a pas de taux. Je ne peux pas vous dire, voilà, on a un taux de réussite de 40%, 70%. Alors, je dirais juste 2 choses. Généralement, parce que d'autres proposent du laser, des têtes, comme toujours, quand les gens sont un petit peu en difficulté, il y a tout le temps des personnes qui sont là pour en profiter. Ceux qui, quelle que soit la proposition, mais lorsqu'on voit 90% d'arrêt, 99% d'arrêt, des choses comme ça, on sait que globalement, on a affaire à, c'est une escroquerie. Donc non, il n'y a pas de taux. On voit des personnes arrêter, heureusement, ça serait décourageant. Et puis, mais souvent en addictologie, quand on ne voit plus les personnes, c'est que ça va mieux. Et puis quand ça va moins bien, elles savent que la porte est ouverte, elles reviennent en disant là j'ai rechuté, j'ai repris, etc. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour souligner une certaine difficulté à l'arrêt du tabac. C'est que par contre, on sait que les personnes non accompagnées, que le taux de réussite, le taux de réussite à l'arrêt est très bas en fait, et on le dit peut-être pas assez suffisamment. On a tous en tête pour l'alcool, quelqu'un qui serait devenu alcoolodépendant, quelqu'un qui serait devenu dépendant à l'héroïne, à la cocaïne, etc. On sait qu'on a, tout de suite on se dit ah c'est difficile, les produits ça doit pas être simple, et donc il faut se faire aider. Pour le tabac, on a moins ce réflexe-là, mais la réalité c'est que beaucoup de personnes n'arrêteront pas suffisamment tôt, développeront des maladies, pourront en mourir, et donc on est sur une addiction sévère. La nicotine monte au cerveau en moins de autour de 6-7 secondes. C'est aussi rapide, voire plus rapide qu'un shoot d'héroïne. Et c'est ça qui crée la dépendance. Hein, c'est cette fulgurance de la nicotine au cerveau. Parce que, pour preuve, c'est que pour arrêter, on peut vous prescrire de la nicotine. Mais lorsqu'elle est diffusée à travers un patch, par exemple, on n'aura pas ce shoot nicotinique. Et donc, on va pouvoir se défaire de son addiction, parce qu'on ne va pas exciter le cerveau de la même façon. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des choses un peu trop techniques, mais l'idée c'est, à retenir, c'est que le taux de réussite, quand on est tout seul dans son coin, lui par contre, il est très très bas. Il y a beaucoup de rechutes.
Au-delà des séances du lundi, que demandez-vous aux participants de mettre en place au quotidien dans leur volonté d'arrêter de fumer ?
D'être bienveillante avec elle-même. On insiste vraiment là-dessus, de sortir de cette zone de culpabilité lorsqu'elles sont dans « j'ai pas de volonté, je suis nulle », etc. C'est vraiment plutôt de leur insuffler et de qu'elles soient fières de la démarche qu'elles ont entreprise, que c'est bien qu'elles aient poussé la porte des lundis de Loiriade, ou ça aurait pu être ailleurs, mais en tout cas qu'elles aient décidé de faire quelque chose de plutôt bien pour elles. Et donc voilà, c'est plutôt de faire preuve de bienveillance envers elle-même, mais pas d'autres exigences en particulier. Il ne s'agit pas de leur dire, par contre, on compte sur vous, hein, pas de cigarette cette semaine, non. Si vous fumez, vous avez fumé, voilà. Par contre, on donnera des tabacologues vont leur donner comme une espèce de ligne un petit peu de conduite, des conseils en disant, par contre, voilà, si vous avez envie de fumer, gardez bien votre patch et fumez avec votre patch, c'est pas grave, vous n'allez pas faire un infarctus, mais par contre, voilà, vous verrez, la cigarette, vous la fumerez pas de la même façon. C'est d'être vraiment à l'écoute de soi et dans une certaine, avec une certaine bienveillance. Voilà.
Existe-t-il d'autres dispositifs similaires à l'Oréade autour des addictions ?
Alors, non, on n'a pas de programme, parce que comme je l'ai dit en introduction, l'Oréade n'accueille pas de patients, ne reçoit pas de patients, n'est pas ni dans le soin, ni dans l'accompagnement, mais travaille avec les professionnels qui font ça très bien. Par contre, il y a des programmes, en effet, on a un. Dans le cadre des lundis de Loiriade, je suis moi présent tous les lundis soirs, plus dans un souci de modération, d'articulation entre les séances, d'une séance à l'autre. Mais ce sont bien les tabacologues qui animent les séances, la sophrologue et la diététicienne. On a une convention, on a pas mal de projets en cours, de dispositifs en cours avec la justice, avec le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Là, c'est moins rigolo pour les personnes qu'on rencontre, qui sont des usagers, des consommateurs, mais qui ont été en contact avec le judiciaire, ont été condamnés, soit parce qu'elles conduisaient au volant, elles étaient au volant. Après avoir consommé de l'alcool, de plus en plus, puisque les contrôles se multiplient, et puis vous voyez l'actualité. L'affaire Palmade et tout ça, mais de plus en plus en effet de contrôle stupéfiant sur les routes, et donc on a des personnes qui sont condamnées à suivre des stages de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants. Et on faisait auparavant aussi des stages de sensibilisation pour des personnes ayant commis un délit avec alcool. Sous cette forme-là, ces stages sont amenés, en tout cas, à disparaître pour tout ce qui est de l'ordre de la conduite, parce que avec le procureur de la République, Monsieur Charmatz, on a mis un programme en amont, hein, c'est-à-dire que lorsque les personnes sont interpellées avec des stupéfiants ayant conduit après avoir fait usage de stupéfiants ou avoir conduit après avoir fait usage d'alcool en dehors des limites acceptées, eh bien ces personnes se voient remettre par les services verbalisateurs forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, une invitation à contacter un centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, un XAPA, pour pouvoir les rencontrer lors de séances collectives d'information, de sensibilisation. Et ça, avant les audiences, on appelle ça pré-sententiel. Et donc, le jour de l'audience, le jour où elles vont être convoquées au tribunal et condamnées, eh bien, elles pourront montrer qu'elles ont pris les choses en main et qu'elles ont rencontré un service dédié aux addictions et qu'elles ont eu une sensibilisation. Si elles ne l'ont pas fait, ça sera pris en compte dans la décision du tribunal au niveau de la sanction. En tout cas, si elles l'ont fait, déjà d'une part, elles auront une sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a un volet comme ça pédagogique qui intervient avant l'audience. Donc ces stages-là, les stages qu'on menait jusqu'à maintenant étaient des stages payants, dont le montant était quand même déduit des amendes, hein, donc il n'y avait pas de surcoût financier pour les mises en cause, mais simplement, on n'était pas que dans le tout pécunier, on était aussi dans la pédagogie. C'était pas uniquement s'en prendre au porte-monnaie, mais aussi proposer une information de 3 heures de sensibilisation. Désormais, pour tout ce qui est conduite, où on est quand même sur une dangerosité plus importante pour la personne, mais bien sûr aussi pour tous les autres usagers de la route. Et donc les sanctions sont plus importantes. Donc là, ces stages-là, qui s'appellent rencontre prévention récidive alcool et rencontre prévention récidive conduite sous stupéfiants, sont pilotés au travers d'une convention qui relie l'OIREAD et le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, via son procureur, M. Charmatz.
Concernant des lycéens comme nous, donc mineurs, avez-vous des propositions similaires ?
Alors, on est régulièrement contacté par des collèges, lycées, dans une optique de prévention, de rencontrer des élèves. Pendant de nombreuses années, on a coordonné la prévention au niveau départemental, c'est-à-dire que toutes les demandes passaient par l'OIREAD et ensuite, nous contactions Rimbaud, Addiction France et d'autres structures pour qu'elles aillent intervenir. Ce n'était pas notre mission. Donc on continue à avoir des appels, bien qu'on ne coordonne plus ça, on continue à un petit peu dispatcher les demandes, et de temps en temps, lorsque tout le monde est un petit peu pris, ou lorsque la thématique, on peut y répondre. Ma collègue Caroline Guillet a un DU d'addictologie, et j'ai moi-même aussi un DU d'addictologie, plus maintenant, tous les deux, plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine-là, au contact des professionnels. Donc on est en mesure, en effet, d'aller intervenir et de rencontrer dans des opérations de prévention. Maintenant, les acteurs que j'ai cités, Rimbaud, Addiction France, nous-mêmes, on est un peu plus vigilants sur les demandes, parce qu'on trouve que ce type de prévention est peut-être pas très efficient. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme du saupoudrage. On vient, on rencontre un jour trois classes de seconde, par exemple, puis on ne reviendra pas pendant quelques années. Alors, il y a des gens qui passent à travers les mailles de la prévention, et puis ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse maintenant les acteurs de prévention, c'est de pouvoir être dans une continuité, c'est-à-dire travailler avec les élèves, mais sur du moyen long terme. Pourquoi pas les avoir rencontrés en seconde, mais à nouveau en première, et parce que il y a une évolution qui se fait, il y a des choses qu'on peut aborder à tel âge sous cette forme-là, mais plus tard on peut aussi les aborder sous une autre forme. Ce qui est intéressant, c'est des programmes qui existent comme Employ, par exemple, des branches, qui sont des programmes, eux, vraiment qui s'inscrivent dans le moyen long terme et dont on sait aujourd'hui qu'ils sont bien plus efficaces. Une vraie prévention, digne de ce nom. Mais pour ça, ça demande des budgets, j'en profite. Donc ça serait bien que les établissements scolaires puissent disposer de davantage de budget pour pouvoir mettre en place des vraies actions de prévention où on intègre l'estime de soi, où on développe les compétences psychosociales et où on peut faire un travail vraiment de fond et de longue haleine comme ça, avec une participation plus grande des lycéens, des collégiens, et voire même sur des classes élémentaires. C'est-à-dire, adapter les programmes en fonction de l'âge, mais vraiment dans le temps. On manque cruellement de prévention en France. Là, vraiment, la prévention laisse beaucoup à désirer. Et malheureusement, quand il n'y a pas de prévention, on retrouve beaucoup plus de problématiques addictives ensuite à l'âge adulte.
Ouais. D'autres produits apparaissent avec un large succès chez un public jeune, les cigarettes électroniques et les puffs. Qu'en pensez-vous ?
Alors, plein de produits, on va dire, entre guillemets, licites, comme les cigarettes électroniques, on peut en acheter, etc. Normalement, on ne devrait pas pouvoir y accéder quand on est mineur. On voit bien qu'il y a un marketing puissant autour de, par exemple, des puffs qui sont en train d'un petit peu d'exploser, hein. Des couleurs vives, des parfums sympathiques. Clairement, oui, les jeunes gens sont visés. Les réglementations ne sont pas respectées. On trouve des fois des puffs dans certaines enseignes qui n'ont pas le droit d'en vendre. Malheureusement, oui, les jeunes sont exposés. Pour ce qui est des puffs, certains réseaux sociaux ont contribué au grand développement de cet usage-là. C'est toujours compliqué parce qu'on dit on est sur des produits sans fumée. D'accord ? Donc le risque, c'est le risque de l'addiction, d'être dépendant de la nicotine. Si on était certain à 200% qu'on n'ait aucune dangerosité sur ces produits, on se dirait, après tout, la personne est addicte à la nicotine, mais vu qu'il n'y a aucune autre substance nocive, c'est comme une espèce de doudou qu'on va regarder en permanence, une espèce d'objet comme ça. Ça s'arrêterait là, sauf qu'on n'a pas de recul, c'est comme pour la cigarette électronique. Pour un fumeur qui passerait à la cigarette électronique, qui céderait de la cigarette électronique avec un projet bien clair d'arrêter de fumer, très bien. Il va avoir gardé quelques substances qu'on connaît, qui ne sont pas particulièrement dangereuses. Il va se passer de ces milliers de substances qui sont des irritants, des cancers. Des poisons qu'on connaît dans la fumée du tabac. Donc oui, là, il y a un réel bénéfice à aller vers la cigarette électronique lorsqu'on est fumeur. Maintenant, aller vers le risque de devenir, de s'accrocher à cette substance qui est la nicotine en utilisant la puff et la cigarette électronique alors qu'on n'était pas fumeur au départ, c'est peut-être le risque, c'est peut-être de commencer par la puff et puis ensuite de dire tiens, ça c'est pour les gamins, et puis maintenant je passe à la cigarette. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les jeunes peuvent s'accaparer l'outil, l'objet. Ils y vont, ils consomment, c'est peut-être fun, et puis à un moment donné, on dira mais t'es encore avec ta puff, c'est ringard, regarde, moi je fume des vrais clopes, quoi. Donc le risque, il est d'être dans un accrochage. Il y a quand même de la nicotine, c'est quand même un produit qui rend dépendant. Les personnes peuvent peut-être ensuite déraper vers des produits beaucoup plus polluants, c'est-à-dire aller sur des cigarettes conventionnelles, quoi. Si vous rajoutez là-dessus aussi l'usage du cannabis, tout ça, qui va amener l'accrochage, parce que dans les joints qui sont fumés, on a du tabac, et donc on a des personnes qui vont devenir dépendantes au tabac à travers le cannabis. Et oui, c'est un petit peu après le serpent qui se mord la queue. C'est difficile aussi d'y voir clair après, mais en tout cas. Oui, il y a un vrai risque. Ce qui est malsain, c'est que derrière, on voit qu'il y a un marketing qui vise clairement les plus jeunes et qui vont se faire avoir, pour certains. Voilà.
Comment peut-on se renseigner sur les lundis de Loiréade et les différents rendez-vous proposés ?
Alors, sur notre site, loiréade.org, on a tout ce qu'on fait et tout ce qu'on propose, et notamment vous avez un onglet sur les lundis de Loiréade qui permet de s'inscrire en ligne très facilement. On peut s'inscrire pour une séance, deux, 10 séances hein, à l'avance. Voilà, vous avez une espèce d'agenda qui s'affiche et vous cliquez sur les dates qui sophrologie, tabacologie. Tiens, allez, sophrologie, tabacologie. Je m'inscris pour 4 séances. Pour, voilà. Donc, c'est assez simple sur loireat.org. Ensuite, on a des plaquettes comme celle que je vous ai amenée qui permettent d'avoir référencé tout le calendrier, là, on a le planning complet de l'année 2023. Comme je disais, ce soir, c'est sophrologie. Et on a en plus dans cette plaquette tous les numéros de téléphone des différentes consultations du département. Voilà. Donc l'hôpital du Gé, XAPA du Gé, le XAPAF, donc le XAPA du Forêt, au centre hospitalier du Forêt, Rouen. CHU de Saint-Étienne, l'unité de traitement des dépendances et des toxicomanies de Saint-Étienne de l'hôpital Bellevue, le XAPA 42 qui est rattaché à l'hôpital de Firminy, l'hôpital privé de la Loire et l'hôpital Le Corbusier à Firminy. Donc voilà, toutes les plaquettes plus le programme des lundis de Loiriade. Et ces documents, il faudrait qu'on prenne le temps un petit peu de les diffuser plus largement dans les pharmacies, chez les médecins. C'est un travail qui est très chronophage et puis qu'on avait arrêté de faire parce que le Covid était passé par là, donc vous imaginez qu'on a eu des difficultés. Faire du groupe pendant le Covid, impossible. On a tenté la visio, ça n'a pas été non plus génial. Et puis partout, dans toutes les salles d'attente, tout ce qui était plaquettes, revues, tout a disparu parce qu'il fallait absolument ne rien toucher. Et donc on s'est retrouvés un petit peu en panne comme ça de communication. Donc là, c'est reparti fin 2022, ça a redémarré. 2023 a bien démarré.
On remercie M. Pereira d'être venu dans notre lycée pour nous parler des lundis de Loiriade.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie de vous être intéressé à Loiriade et aux lundis de Loiriade.